Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et tous. Donc bienvenue au Salon interjurassien de la formation à Moutier, 12e édition qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Nous sommes donc en direct du Forum de l'Arc où plus de 200 métiers et formations sont à découvrir sur une septantaine de stands, Émilie.
Oui, et nous vous proposons une table ronde pour commencer aujourd'hui jusqu'à 14h. Le thème formation académique versus apprentissage, deux voies différentes mais qu'il ne faut pas opposer. Pour développer cette thématique, nous recevons trois invités autour de la table. Pierre-Alain Béret, président de ce salon interjurassien de la formation et directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura. Il sera accompagné par Cédric Bassin, directeur du domaine, du centre de formation Berne francophone, et d'Andreas Effli, chef de service du centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire du canton du Jura.
Alors messieurs, bonjour.
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 Pierre-Alain Béret, on va commencer par vous pour planter le décor. On va revenir sur ces déclarations faites en début d'année. Vous disiez ceci à notre micro. Trop souvent, on dit aux jeunes, si vous avez des bonnes notes à l'école, eh bien, il faut partir sur la voie académique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
C'est simplement l'expérience, c'est ce qu'on observe, ou en tout cas ce qu'on observait. Je pense que c'est toujours vrai, mais ça évolue fort heureusement. Ce qu'on dit nous aujourd'hui, c'est qu'il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre les différents métiers. Et finalement, il n'y a pas des métiers qui sont plus glorieux entre guillemets que d'autres, et d'autres qui seraient destinés plutôt à des élèves qui ont des moins bonnes notes. On souhaiterait qu'on mette tous les métiers au même niveau, parce que tous offrent des perspectives intéressantes, tous offrent potentiellement de belles carrières aussi dans la région et une évolution possible. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, ou ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes puissent choisir ce qui leur fait plaisir sans avoir cette pression de dire « Ah, mais si je ne suis pas médecin ou pas avocat, finalement, la société ou mes parents ou les enseignants vont peut-être mal le prendre. » C'est ça parfois qui arrive en tant que parent. On le constate aussi. Hein, on est toujours fiers quand les enfants font une carrière académique, peut-être. Je crois qu'on doit maintenant vraiment mettre tous ces métiers au même niveau.
Alors ça, on va parler des parents tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut parler d'une image écornée de l'apprentissage, mais on pourrait se poser la question, est-ce que ça a des conséquences ? Est-ce que ça peut faire qu'on manque d'apprentis dans la région ?
Dans la région, on est encore privilégié, je crois, parce qu'on a quand même une réalité économique aussi avec des entreprises dans l'industrie, et on a quand même un taux d'apprentissage plutôt satisfaisant, je dirais. Par contre, la situation, elle est contrastée selon les branches. Il y a des branches qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y a des métiers qui attirent plus les jeunes, d'autres peut-être moins, parce que peut-être qu'ils sont moins connus, peut-être que les associations de branches aussi font de la promotion différente. Donc il faut vraiment maintenant qu'on puisse aussi rendre visibles ces différents métiers. Il y en a 209 qui sont présentés ici de manière attractive, avec des stands vivants, des gens, des apprentis, des professionnels aussi qui montrent ce qu'ils font. C'est comme ça, en fait, qu'on peut en contribuer, je dirais. Évidemment, on ne va pas solutionner tout, mais contribuer, en tout cas, à rendre ces métiers accessibles et visibles pour les jeunes.
Cédric Bassin, le CEF, dont vous êtes le directeur, propose de très nombreuses filières d'apprentissage. Vous sentez que l'apprentissage souffre encore d'un déficit d'image par rapport aux études académiques, par exemple ? C'est une réalité ?
Alors, je pense qu'on fait face là, à des effets sociétaux qui sont profonds. Effectivement, je crois que M. Béret soulignait tout à l'heure, on a des bonnes notes à l'école, alors c'est automatique, on va embrasser une formation d'ordre général, de culture générale ou du lycée. Et puis, cet automatisme-là, et parfois on crée un peu profondément dans la population. Et c'est notre rôle aussi d'expliquer aux jeunes que ce n'est pas parce qu'on a des bonnes notes à l'école qu'on doit automatiquement aller embrasser une formation académique, mais qu'il y a des voies professionnelles qui sont tout aussi satisfaisantes et qui permettent un développement intéressant, et en particulier dans cette région.
Alors ça a été dit par Pierre-Alain Béret, est-ce que vous le remarquez, est-ce qu'il y a des métiers qui souffrent peut-être plus de cette image peut-être un peu écornée de l'apprentissage ?
Alors dans cette région ici, on a beaucoup d'industries, on a aussi un problème de relève, parce qu'on voit que on a beaucoup de gens qui vont partir à la retraite, on a besoin de forces vives. Et puis, on fait beaucoup d'efforts pour attirer les jeunes vers les métiers industriels. Si on prend des métiers, par exemple, du santé sociale, ils ont beaucoup plus d'attrait actuellement auprès des jeunes. Mais c'est vrai que le domaine industriel est un domaine sur lequel on travaille beaucoup pour attirer les jeunes dans ce domaine-là. Je dois dire que les dernières rentrées qu'on a fait au niveau du CEF dans la partie industrielle étaient plutôt bonnes. Donc on espère être à un point d'inflexion et voir maintenant les jeunes se diriger vers ces professions. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.
Andréa Seffli, l'orientation professionnelle, c'est une des premières oreilles à qui se confient les élèves au moment d'évoquer leur avenir professionnel. Vous sentez que pour eux, l'apprentissage reste en bas de la hiérarchie des formations ?
Alors, je n'ai pas tout à fait la même vision des choses que M. Bassin par rapport à la question de la hiérarchie des métiers. Je pense que ce qu'on observe surtout chez les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sont à la recherche du sens dans le travail. Et finalement, c'est indépendant d'une filière de formation, d'une voie de formation particulière. À partir de là, il est bien clair qu'on observe une autre chose, c'est qu'il y a une grande méconnaissance de la diversité des métiers qui existent. Et ça, c'est un des éléments qui est mis en évidence ici au salon. Ça permet aux élèves de voir qu'il y a des centaines de métiers différents. Si on pose la question aux jeunes d'une manière très naïve, qu'est-ce qu'ils connaissent comme métier ? Ils en connaissent que quelques-uns. Donc leur choix, s'ils le font de manière relativement spontanée, il va s'opérer par rapport à ce qu'ils connaissent et pas par rapport à ce qu'ils ne connaissent pas. Donc l'objectif, c'est de montrer qu'il y a peut-être beaucoup plus de métiers qu'on ne pense et de montrer l'intérêt qu'on peut y trouver. Justement, cette recherche de sens qu'il y a dans le travail. Et je pense que ça, c'est une réalité aussi dans une perspective de gestion de carrière en général, parce que là, on parle des jeunes en scolarité obligatoire ou fin de scolarité obligatoire et qui imaginent une première formation. Mais cette réalité aujourd'hui, je dirais, elle nous concerne tous, tout au long de notre vie professionnelle. Donc, ce qui veut dire que les compétences en gestion de carrière, c'est un élément déterminant pour, je dirais, avoir une vie professionnelle positive, stimulante, satisfaisante sur le long terme. D'où l'importance de mettre en place des plateformes, des systèmes de communication pour les entreprises, pour les milieux économiques, pour mettre en évidence les métiers, leurs spécificités, l'intérêt qu'on peut, je dirais, y trouver pour chacun de nous. Et ça, tout au long de notre vie professionnelle.
Donc là, vous avez un rôle important à jouer aussi. Ça veut dire que si vous êtes confronté à un élève qui a des bonnes notes, vous n'allez pas automatiquement l'orienter vers le lycée ou le gymnase ?
Absolument pas, justement. Notre travail, c'est un des éléments. C'est clair que si mon projet, c'est d'aller au lycée, par exemple, d'entrer au lycée, c'est clair qu'il faudrait que j'aie de bonnes compétences scolaires. Ça aide quand même énormément au niveau de l'entrée déjà par rapport aux critères d'admission, mais ça aide aussi dans la réussite. On a toujours une perspective dans l'orientation qui est de développer avec les personnes ou de les aider à élaborer un projet réaliste et réalisable. Donc ce qui veut dire que les notes scolaires sont un élément qui entre en ligne de compte quand on envisage une filière académique par exemple. Mais c'est de loin pas le seul critère. Il y a une énorme diversité des critères et en fait, ces critères sont différents d'une personne à l'autre.
Pierre Alimbert, vous nous l'avez dit aussi au moment de préparer cette table ronde. Alors l'idée, c'est pas d'opposer une voie à l'autre. Il n'y en a pas une qui est forcément moins bonne que l'autre. On pourrait se poser la question, est-ce que finalement, ça serait pas un peu un gâchis de ne pas envoyer un élève brillant au gymnase ou à l'université ?
Je pense que ce qui est un gâchis, c'est d'envoyer un élève à l'université alors qu'il a envie de faire autre chose. Ça, c'est vraiment un gâchis. Je pense qu'il faut, vraiment que les parents, les services d'orientation, les enseignants arrivent à orienter les enfants, les jeunes, vers des formations qui leur conviennent. Et moi, j'ai absolument aucun souci qu'un bon élève fasse un apprentissage dans une branche qui lui plaît, parce qu'il va s'épanouir, il va trouver du sens. Comme le disait tout à l'heure Andréa Seffli, ça c'est vraiment très important. Et je crois effectivement que ce message, il doit être vraiment très fort de dire, mais finalement, on n'est pas en train de dire qu'il faut aller que vers l'apprentissage non plus, hein, à contrario. Je veux dire, on aura toujours besoin d'avocats, de médecins, d'économistes, de gens qui font des carrières brillantes, diplomatiques, ça c'est évident. Et c'est aussi une fierté pour notre région quand on peut exporter aussi des talents qui ensuite rayonnent à l'international, ça c'est sûr. Mais en même temps, eh bien, l'apprentissage, ça reste une voie solide, ça reste une voie diversifiée et ça reste une voie qui offre aussi un potentiel d'évolution. Et c'est ça que je crois qu'aussi on doit bien percevoir. C'est pas simplement 4 ans d'apprentissage et puis après on a fini d'apprendre pour la suite de sa carrière. On peut évoluer, on peut faire des écoles supérieures complémentaires, on peut aussi changer de voie et ça aussi c'est nouveau quand même dans les cursus. Hein, y a vraiment des passerelles maintenant. Qui permettent, si on a envie de changer d'orientation après quelques années, de pouvoir le faire. Donc il y a vraiment cette diversité qu'on doit mettre en évidence.
On parle ici des capacités scolaires des élèves. Cédric Bassin, pour les formations techniques, commerciales ou dans la santé, par exemple, en quoi c'est important d'avoir des bonnes notes à l'école?
C'est important parce que toute la partie culture générale, maîtrise de la langue, maîtrise du français, mais aussi maîtrise des mathématiques et des calculs, c'est des fondamentaux qu'on retrouve dans toutes les professions. Donc c'est clair que ce n'est pas des choses qu'on peut négliger. Par exemple, au CEF, dans certains domaines du CEF, on a mis en place des cours de soutien pour accompagner les élèves, pour qu'ils puissent justement acquérir ces compétences de base et faciliter ainsi l'apprentissage de la profession qu'ils ont choisie.
Alors, Andreas Eppli, on l'a brièvement évoqué avant, il y a parfois une certaine pression de la part des parents ou des professeurs à pousser les enfants à viser le plus haut possible en termes de formation, plus de prestige. Vous rencontrez aussi ces cas-là ?
Alors, je pense qu'il faut toujours faire attention quand on généralise. Alors oui, bien sûr, il y a certainement ce genre de situation, simplement qu'elle est peut-être moins générale qu'on ne le pense. Je crois que ce qui est important à retenir par rapport à ce que vous venez de dire, c'est finalement, est-ce que les parents se préoccupent de l'avenir de leurs enfants ? Est-ce que l'enseignant qui accompagne une classe, est-ce qu'il se préoccupe de l'avenir des jeunes qu'il a dans sa classe? Et en fait, c'est le reflet de cette préoccupation. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on a tous, en tant que parents, je pense aussi, des rêves, des attentes. Ce serait faux de ne pas les exprimer. Je pense que simplement, il faut essayer d'en parler librement, en disant, finalement, avec son enfant, tu vois, j'ai telle idée, j'ai telle vision, etc., etc., mais je te laisse la liberté quand même. Et on peut en discuter. Parce que les non-dits créent plus de problèmes que quand on exprime ces rêves et ces idées-là. Hein, je pense. Et de le nier qu'on a des attentes, je pense que c'est une erreur aussi. Donc oui, on rencontre ce genre de situation. Il faut juste faire attention à ne pas en faire une généralité.
Pierre-Alain Berry, on va peut-être se mettre dans la peau des exposants ici au Salon interjurassien de la formation. Alors, on trouve un condensé de toutes les formations à disposition. Est-ce que les différents acteurs professionnels se battent pour avoir les meilleurs élèves dans leur contingent ?
Alors, je pense que ce n'est pas le but premier, mais on est quand même dans une démarche promotionnelle sur un salon, c'est sûr. Et d'ailleurs, on le voit, les stands sont magnifiques. Les branches, elles rivalisent d'imagination pour faire des beaux stands, pour faire des animations qui soient attractives, pour que les jeunes qui se déplacent et qui viennent sur le stand puissent faire une expérience. Et donc oui, forcément que chacun espère pouvoir séduire les jeunes et leur montrer que leur métier, finalement, est intéressant et puis mérite que les jeunes s'y arrêtent un petit moment. Ça, c'est sûr, oui, bien sûr.
Alors on essaye aujourd'hui de démonter certains clichés. En voici un autre. On a aussi tendance à croire qu'on gagnera mieux sa vie en exerçant un métier accessible par voie académique plutôt que par la voie d'apprentissage. Est-ce que c'est forcément le cas, Cédric Bassin ?
Je connaissais quelqu'un qui disait « si tu veux gagner de l'argent, travaille, si tu veux t'enrichir, fais autre chose ». Donc quelque part, si on cherche absolument la profession qui nous fera gagner le plus d'argent, je pense qu'on a passé à côté de l'objectif de sa vie. Il me semble qu'on fait un métier parce qu'on a envie de le faire par passion. Et j'ai pas tellement envie d'être soigné par un médecin qui a fait médecin pour gagner de l'argent, si j'ose cette comparaison. Non, je pense que c'est un cliché, mais c'est pas un bon cliché. Je pense pas qu'il faut partir sur une vision comme ça quand on fait un choix de la formation.
Andrea Sepli, ce cliché, vous en dites quoi ?
Oh, je pense qu'il n'est pas juste à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a la réalité le montre. Il y a des métiers par apprentissage où le salaire est plus élevé que, par exemple, dans certaines voies d'études. Donc finalement, c'est une vision fausse. C'est une erreur de pensée. À partir de là, je pense que je partage totalement la vision de M. Bassin. Je crois que le monde professionnel n'a pas besoin de gens qui font un métier juste pour le salaire. Il a besoin de gens compétents qui font leur métier avec passion, avec fierté. On parlait avant des stands, de la fierté des milieux professionnels à présenter leur métier, etc. Et je pense que le salaire, à la fin du compte, est le reflet de cette reconnaissance en termes de fierté, en termes d'investissement, en termes de travail. Et je pense que c'est ça la réalité aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'il y ait réellement une hiérarchie. Alors on sait tous qu'il y a certains domaines qui sont où les salaires sont plus élevés que d'autres, etc. Mais je pense que c'est beaucoup trop simpliste, on va dire, de réduire ça à métier académique veut dire salaire élevé, apprentissage veut dire salaire bas.
Ces questions de salaire, c'est une préoccupation que vous retrouvez chez les adolescents qui viennent à l'orientation professionnelle?
Si vous voulez, ça fait partie des critères de choix, comme une multitude de critères de choix. C'est-à-dire que pour chacun de nous, nous avons des critères qui définissent notre projet professionnel ou notre choix professionnel. Le salaire peut en faire partie, pour certains plus, pour certains moins. Pour d'autres, c'est le sens, un peu plus, un peu moins, etc. Donc finalement, à chacun de nous de définir ses propres critères. C'est ça l'élément le plus important. Après, ce serait aussi une erreur de ne pas tenir compte du salaire. Je pense que c'est un élément qui entre en ligne de compte, oui.
Alors, on a discuté avec d'autres acteurs de la formation, aussi de la formation continue. Il est ressorti quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, les compétences scolaires de base, comme les mathématiques, le français, puis on parle aussi maintenant, évidemment, de tout ce qui est technologie de l'information, de la communication, tout ça est nécessaire et même primordial dans les entreprises, pour les employeurs, pour les employés. Et on dit souvent que les employés ne réalisent pas l'importance d'être bien formés dans ces compétences. Est-ce que vous partagez ce constat, Pierre-Alain Béret ?
Alors, effectivement, l'acquisition de compétences métiers, je dirais, est extrêmement importante, elle est essentielle. Mais aujourd'hui, ça ne suffit largement pas, en réalité, parce qu'on est devenu, on est dans un monde professionnel qui est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était dans le passé, qui exige beaucoup de flexibilité, beaucoup de capacité de s'adapter, beaucoup de capacité de communication. Et les entreprises ont besoin aujourd'hui de personnes qui détiennent aussi ces compétences-là, ce qu'on appelle les soft skills en bon français, et qui permettent, par exemple, à un employé de s'intégrer dans une équipe, de pouvoir être capable d'appréhender des changements importants qui parfois sont rapides et de pouvoir vraiment avoir cette flexibilité, cette adaptabilité et tout ça. On l'apprend souvent pas à l'école, mais on va devoir l'acquérir tout au long de sa carrière professionnelle.
André Asselflé, je vous ai vu acquiescer.
Oui, je suis absolument d'accord que les compétences transversales sont des compétences absolument indispensables dans la plupart des métiers, évidemment, sans nier l'importance des compétences techniques de base pour exercer une activité en particulier. Et je pense que les deux niveaux, les deux éléments sont fondamentaux. Oui.
Cédric Bassa, est-ce qu'on retrouve ces deux éléments dans le cadre de vos formations ?
Alors évidemment, c'est prépondérant. Pour encore souligner le propos de mes deux collègues, récemment, je discutais avec une grande entreprise qui me disait la plupart, pour ne pas dire le 100% des apprentis qui quittent l'apprentissage, c'est à cause de compétences sociales. Ce n'est pas des compétences scolaires, ce n'est pas des compétences techniques, c'est des compétences sociales. Se lever le matin, arriver à l'heure au travail, parfois, pour certaines personnes, certains jeunes, c'est compliqué. Donc évidemment, à l'école, on a toutes sortes de programmes, notamment aussi à travers la culture générale, d'éducation d'éducation à ces comportements attendus dans les entreprises. Mais après, je crois qu'il est clair que c'est quelque chose qui s'apprend tout au long de la vie, dans sa carrière, dans son premier travail, on va apprendre certaines choses et ça va continuer.
Est-ce que c'est une demande finalement des entreprises envers vous, formateurs, d'accentuer le travail, les efforts sur ces branches, sur ces compétences ?
Alors, le dispositif de formation qu'on a en Suisse est un dispositif qui fait que les plans de formation des apprentis dans les écoles professionnelles, ils ne sont pas créés par les écoles, ils sont créés par les organisations du monde du travail qui sont les représentants des entreprises. Donc forcément, ils doivent refléter les préoccupations de ce qui se passe dans le monde du travail.
André Asselflé, vous travaillez aussi dans le domaine de la psychologie scolaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous travaillez avec les enfants sur ces aspects-là également. L'accent, il est mis sur quoi ? Qu'est-ce que vous avez comme outil finalement pour amener ces compétences sociales, pour travailler sur ces compétences sociales avec les élèves ?
Alors, c'est vrai que la psychologie scolaire est un autre volet du centre d'orientation. C'est-à-dire que là, il s'agit de soutenir ou de travailler autant avec l'école qu'avec les parents sur les questions d'intégration dans le cadre scolaire. Et pourrait se dire que pour l'enfant en scolarité obligatoire, finalement, son employeur, entre guillemets, ou son emploi, c'est l'école. Et comment on peut modéliser une carrière scolaire, on va dire, positive, aussi positive que possible, pour permettre à l'enfant aussi de préparer ensuite la transition dans les formations du secondaire 2. Et le travail des psychologues scolaires, c'est surtout cet élément-là, hein, c'est cette collaboration avec les milieux pédagogiques, les parents, etc., pour justement aider les enfants à, imaginer ou s'intégrer à l'école d'une manière aussi satisfaisante que possible en développant des compétences scolaires, des compétences sociales, etc., etc.
Parfait. Ben messieurs, pour conclure brièvement cette discussion, peut-être on va vous laisser donner votre message. Quel message vous voulez adresser aux jeunes qui hésiteraient entre différentes voies en fonction de leurs compétences scolaires, Pierre-Alain Béret ?
Alors déjà, il faut qu'ils viennent au salon, il faut qu'ils visitent les stands, il faut qu'ils se renseignent, qu'ils s'informent. Et puis je crois qu'au final, ils fassent un choix avec leur cerveau, mais aussi avec leur cœur. Il faut qu'ils choisissent une voie qui les fasse vibrer. Je crois que c'est le plus important parce que le chemin sera long par la suite. Et il faut vraiment qu'ils se dirigent vers quelque chose qui les fait vibrer.
Andréa Seffli, votre mot de la fin ?
Je pense qu'un des éléments déterminants, c'est la richesse de notre système de formation qui finalement permet des parcours atypiques. On parlait de la formation professionnelle, mais le professionnel peut devenir académique, l'académique peut devenir professionnel. Et je pense que c'est une chance énorme à chacun de nous de saisir ces opportunités. Et pour saisir ces opportunités, il faut définir ses besoins, ses envies, ses priorités, etc., etc. Et ce qui veut dire que, bien sûr, comme le dit M. Béret, au salon, on peut venir s'inspirer, on peut venir voir des choses, discuter avec des professionnels, etc., pour essayer de trouver la meilleure voie possible pour soi-même.
Le mot de la fin est pour vous, Cédric Bassin.
Je peux mettre qu'une emphase sur ce que viennent de dire mes deux collègues. Le système de formation suisse est riche. Alors, informez-vous. Le salon, c'est une possibilité de s'informer. Venez au salon et vous apprendrez beaucoup de choses.
Merci, messieurs. Nous arrivons déjà au terme de cette table ronde avec nos invités Pierre-Alain Béret, Cédric Bassin, Andréa Seffli. Merci d'avoir été en direct avec nous.
Merci, au revoir.